Magnifique, merci beaucoup Olivier pour ce chant, merci Stéphane, Dieu vous bénisse. Ça va ce dimanche pluvieux ?
Oui.
Les pauvres gueux de Verneuil, pour ceux qui ne savent pas sur internet, aujourd'hui c'est la fête des gueux et il pleut, mais c'est triste. Il y a quand même. Et puis en plus c'est la fête aussi au village et il pleut aussi. Bonjour Saint-Michel, ça va ? Voilà, ben ma foi, tant pis. Hein. Nous, on est dans la joie quand même, parce qu'on a le soleil dans le cœur, c'est vrai, et dans la tête aussi. Ce matin, on va faire une lecture dans Luc, chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr, et de Sidon qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de bénir ces choses, ces paroles. Jésus-Christ a dit un jour, le Père agit, alors moi aussi j'agis. Et comme je vous disais l'autre soir, eh bien, maintenant c'est à nous d'agir. La foi sans les œuvres est morte, et nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu agisse à notre place. Dieu fait ce qu'il a à faire, nous, Jésus a fait ce qu'il a à faire et nous avons ce que nous avons à faire. Il y a des degrés, c'est comme ça. Je sais bien que dans l'esprit français, la hiérarchie, on n'aime pas trop, mais c'est quand même comme ça. Et puis, c'est pas autrement. Jésus-Christ donc agit encore de nos jours et je l'ai tellement vu souvent agir, faisant des choses magnifiques, des petites choses, des grandes choses. Je l'ai vu guérir des malades, je l'ai vu convaincre de péché des gens qui semblaient durs, endurci et incapable de... Et voilà, tout à coup, il s'ouvre à l'Évangile, il naît de nouveau. Je l'ai vu chasser des démons, opérer des miracles. Je l'ai vu, par exemple, dans la nature, là, on parle de pluie. Je l'ai vu détourner des orages parce que nous étions en train de prier. Et il a fait ce que nous demandions. Je l'ai même vu ressusciter un jeune homme à Paris. Vous vous rappelez de cette histoire avec Liliane, n'est-ce pas, qui m'avait téléphoné. C'était magnifique. Mais, vous savez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, on dit toujours cela en pensant que Jésus fait toujours des miracles parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ce n'est pas que ça qu'il fait. C'est pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement pour tout. Pour tout. Et en lisant les Saintes Écritures, on voit qu'il est constant. Et en lisant le Nouveau Testament, on le voit construire son Église dès le départ. Après avoir prié sur la montagne, il en est descendu et il a choisi 12 hommes et il leur donna le nom d'apôtres, ce qui veut dire « envoyé ». Et puis, il avait déjà une foule de disciples. Il n'avait pas que 12 bonhommes avec lui, il avait une foule de disciples, mais il en a choisi parmi eux 12. Et les autres pouvaient dire ce qu'ils voulaient, ils n'étaient pas choisis. Point. Ah, ça fait drôle, hein? Et parmi les 12, il en a choisi un à qui il dit « Je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu liras, déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 16, 19, 20, c'est, tout ça c'est à la suite, n'est-ce pas? Et Pierre, il a utilisé ses clés le jour de la Pentecôte quand il a créé l'Église, en quelque sorte, il a ouvert les portes. Et les gens ont pu rentrer en masse dans l'Église de Jésus-Christ, telle que Jésus-Christ la voulait, c'est-à-dire une Église communautaire. Ça ne peut pas être autre chose. Si c'est autre chose, c'est une rébellion. C'est une apostasie. Mais Jésus voulait une Église communautaire, et c'est ça que l'apôtre Pierre, directement, a prêché. Quand les gens ont dit « Homme, frère, que ferons-nous ?» Il a dit premièrement, vous lirez acte 8:38, je crois, premièrement, repentez-vous, soyez baptisés, recevez le Saint-Esprit, et par plusieurs autres paroles, il les exhortait en leur disant de sortir de cette génération perverse, et ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont vendu tous leurs biens, puis ils se sont mis ensemble, nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, et ils prenaient leur repas dans la paix. Hein, quand on vit en communauté, c'est comme ça que ça se passe, dans la paix. Et à moins que il y ait une rébellion. Quand il y a une rébellion, ah, là, il n'y a plus tellement la paix. Mais ça, ce n'est pas de notre fait. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui se rebellent, c'est les autres. Enfin, je veux dire les autres, ça ne veut pas dire que ce n'est pas les enfants de Dieu, mais c'est des gens qui s'égarent un peu. Puis, il a conduit trois de ses disciples sur une montagne. Il les a choisis encore, parmi les 12, Pierre, Jacques et Jean. On trouve ça dans Matthieu 17. Encore un clan. Et puis, dans Matthieu 18, il continue son œuvre qui était d'établir son Église sur la terre. On va lire Matthieu, chapitre 18, verset 15. Il dit, « Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'Église. » Ah, vous voyez, il commence à parler de son Église, là. « Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou et un publicain. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et il commence à construire son Église. Il donne des directives aux 12 apôtres. Il leur donne des directives. Jésus était quelqu'un qui dirigeait, et il dirige toujours. Ces 12 étaient ses premiers ministres. C'était les ministres, les apôtres. L'apôtre, c'est celui qui a tous les ministères. Ensuite, vous avez le prophète, vous avez le docteur, pasteur évangéliste. Pasteur évangéliste, c'est souvent à peu près la même chose. Les pasteurs sont évangélistes en général, hein. Mais voilà. Mais apôtre, il a tous les ministères. Ce n'est pas le prophète qui a tous les ministères, c'est l'apôtre. Souvenez-vous qu'il avait déjà une foule de disciples. Dans Luc 6, 17, une foule. Mais il a choisi là. C'était cette foule de disciples que le Sauveur, c'était de cette foule de disciples que Jésus avait sauvé, avait cherché, avait mis à part les 12 apôtres pour être les premiers ministres. Et puis parmi les 12, il en avait donc choisi un pour lui annoncer qu'il allait bientôt recevoir les clés des cieux, Matthieu 17, 19, comme on a lu tout à l'heure. Et puis le Sauveur a donné la prêtrise aux 12 de ses ministres, c'est ce qu'on vient de lire. Il leur expliqua le fonctionnement de son Église. Et Jésus commence à bâtir son Église, il l'établit, il l'a bâtie et l'établit. Les 12 avaient donc reçu la prêtrise, ils pouvaient lier sur la terre, et ce qu'ils liaient sur la terre, c'était des liés dans le ciel. Mais ce n'était pas un pouvoir qui était donné à la foule de disciples, c'était les 12. Et puis ensuite, ce qu'ils déliaient sur la terre, c'était des liés dans le ciel. Ce n'était pas tout le monde, c'était les 12, il fallait être ministre. Ils étaient dotés, ils avaient une autorité. Cependant, il y avait encore une prêtrise plus élevée, et les 10 ne la reçurent qu'après la résurrection. Pourquoi les 10 ? Parce que, bon, déjà, il faudrait ouvrir, parce que je crois qu'il y a la famille Claire qui arrive. Parce que déjà, Judas avait trahi, il était loin, et puis Thomas, ben, il avait été faire des courses à Auchan, je ne sais pas où, il n'était pas là. Et ce jour-là, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ce pouvoir-là, cette prêtrise-là, n'est pas donnée à tous les disciples. C'est un pouvoir divin, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner au sujet des choses de l'éternité. On peut se pardonner entre nous, mais ce n'est pas parce que Mme Tartampion pardonne M. Duchemol que M. Duchemol va aller au paradis. Même les païens se pardonnent entre eux. Hein? Mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont aller au paradis. Et même les disciples, ça n'a pas. S'ils se pardonnent, on doit pardonner. C'est un devoir. Jésus dit, tu seras pardonné dans la mesure où tu pardonnes. Tous les disciples, on doit faire ça. Mais le ministre, un ministre, quelqu'un qui a un ministère, selon l'ordre établi, il a un pouvoir, c'est celui de pardonner, et la personne qui est pardonnée sur terre est pardonnée au ciel. Et la personne qui n'est pas pardonnée sur terre n'est pas pardonnée au ciel. C'est un pouvoir qui n'est réservé que à cette sorte de personnes, des ministres. Alors les disciples, ils allèrent partout pour prêcher, l'évangile était accompagné par des miracles, la Bible nous dit que les disciples se tenaient à l'écart parce qu'ils étaient respectueux et craintifs. Vous voyez ? L'Église devint rapidement omniprésente dans le monde connu d'alors, et l'apostasie, décrite dans Ésaïe 24, 15, vous lirez, elle a commencé, et la prêtrise a disparu de la terre, les apôtres étaient morts. Bonjour. Et puis, des siècles ont passé, et puis la prêtrise a été rétablie. Et puis les ministères aussi ont été rétablis. Et puis les dons spirituels ont été rétablis. Les choses se rétablissent petit à petit. Je vous raconterai en détail comment la prêtrise a été rétablie, mais ce n'est pas le sujet du jour. Comment reçoit-on la prêtrise? Comment devient-on membre du peuple de sacrificateurs? Parce que normalement, tout disciple fait partie du peuple de sacrificateurs. Donc, le mot sacrificateur, c'est un mot protestant qui a été mis dans la Bible à la place de mot prêtre. Parce que quand ils ont traduit la Bible, les protestants ont enlevé le mot prêtre parce que ça leur rappelait trop les curés. Ils ont mis sacrificateur, mais en réalité, c'était prêtre. Donc vous êtes un peuple de prêtres, voilà. Mais ils ont mis sacrificateur parce que ce mot-là, ils étaient un peu frileux. Eh bien, comment est-ce qu'on devient prêtre? Comment est-ce qu'on devient un peuple de prêtres pour l'Éternel? C'est pas en se repentant. Bien sûr, ça fait partie, la repentance en fait partie, mais c'est pas en se repentant qu'on devient prêtre. Ce n'est pas en vendant tout pour suivre Jésus. Hein? C'est pas en se convertissant. Ce n'est pas en se faisant baptiser d'eau d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas en fréquentant l'Église qu'on devient prêtre. Pas du tout. C'est en naissant de nouveau. Et le problème, dans l'Église, la grande majorité des gens sont convertis, mais pas nés de nouveau. C'est ça le grand problème. Je l'ai appris avec la sœur Camilla. C'est des vieilles choses, hein. Mais bon. Et c'est vrai, c'est scripturaire. Vous avez plein de gens qui se convertissent, mais ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Ils croient, et puis ils font bien, ils sont gentils, ils payent leurs impôts, ils sont aimables, ils vont à l'église, ils donnent leur dîme. Ils ont vraiment l'air d'être, des bons chrétiens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut que Jésus souffle sur eux, il faut qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le baptême dans le Saint-Esprit qui est venu plus tard. Vous comprenez? Quand on est né de nouveau, c'est que Jésus a mis son Esprit en nous. Puis après, on est rempli, plus que rempli, baptisé. Vous savez qu'un verre qui est rempli, c'est quelque chose, mais un verre qui est immergé, c'est quelque chose d'autre. Donc, voilà, vous pouvez avoir le Saint-Esprit en vous, vous pouvez en être rempli, mais quand on est immergé, c'est encore autre chose. Il y a des degrés partout. Il y a des degrés tout le temps. Et cet esprit frondeur français, pardonne-moi Seigneur, je les adore les Français, j'aime beaucoup la France, sinon je partirais, mais qui n'aime pas la hiérarchie, qui n'aime pas l'autorité et toutes ces choses, et qui est toujours en train de râler, il faut qu'un disciple de Jésus soit quelqu'un de soumis, comme Marie-Claire disait, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont soumis. Ils sont soumis. Un enfant de Dieu doit être soumis à Dieu, le Père, bien sûr, avant tout, mais aussi aux autorités établies. Alors, évidemment, à moins que ça soit une autorité abusive. Si c'est une autorité abusive ou si c'est une autorité injuste, la Bible nous dit, sortez du milieu de ce... Sortez de là, allez-vous-en, ne restez pas. Si vous trouvez que j'ai une autorité abusive, que je ne suis pas juste, eh bien, allez-vous-en. Mais voilà l'ordre établi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, il y a beaucoup de convertis, mais peu de gens nés de nouveau. Vous vous rappelez, il y a aussi un texte qui dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais en plus, dans les élus, il y en a beaucoup qui sont convertis, mais pas nés de nouveau. Et parmi ceux qui sont nés de nouveau, il y a peu de ministres. Et puis, il n'y en a qu'un qui a reçu les clés pour ouvrir la porte, c'est Pierre, le jour de la Pentecôte. Alors, un ministre, et puis il a ouvert la porte pour les Juifs, et après il est ouvrir la porte pour les païens. C'est lui le premier qui est allé chez Corneille. Il avait prophétisé, le Saint-Esprit c'est pour toutes les nations, pour toi. Aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, Dieu lui parle par un ange pour lui dire d'aller chez Corneille, un païen, il arrive chez le païen, mais il ne croit pas du tout qu'il va pouvoir se convertir ce païen-là. Il est en train de leur prêcher un évangile, il faut voir comment il leur dit, vous savez, nous les Juifs on vous regarde comme des impurs, là. Il est presque insultant, et à la fin, son discours n'est même pas fini que le Saint-Esprit l'interrompt et... Les gens sont remplis du Saint-Esprit, se mettent à parler en langue, à prophétiser. Alors, Pierre et les autres, ils se réunissent dans la cuisine, ils disent, il faut faire quoi? Ben écoute, le Saint-Esprit est venu sur eux comme sur nous, faut qu'on les baptise. Dieu les prend dans son peuple. Quoi. C'est... Ah, ils étaient tout étonnés, ils pensaient que c'était que pour les Juifs. Ah, les Juifs. Enfin, quand les Juifs sont des vrais Juifs, ça va, mais quand, en plus ils sont des Turcs, alors là. Donc, les pauvres chrétiens, c'est comme ça, il y a une hiérarchie. Donc Pierre avait été le seul à avoir ses clés pour ouvrir aux Juifs, puis ensuite aux païens. Un ministre, il doit être appelé par Dieu, par prophétie, c'est ce qu'on voit dans la Bible, et par l'imposition des mains de ceux qui détiennent l'autorité. Puis ensuite, il peut aller prêcher et administrer les ordonnances, ça c'est ce qu'on voit dans la Bible. Jésus ne laisse pas la place à l'improvisation, il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. Et Jésus est clair, il dit « Celui qui vous reçoit, me reçoit ». C'est quand même une très grande responsabilité pour nous. Mais si vous êtes dans le ministère, celui qui vous reçoit, reçoit une récompense de ministre. Si vous êtes juste, un juste, eh ben, si quelqu'un vous reçoit en tant que juste, eh ben, il recevra une récompense de juste, déjà un peu en dessous. Et puis si quelqu'un vous reçoit parce que vous êtes un disciple de Jésus, c'est encore en dessous, eh ben, il aura sa récompense aussi. Vous voyez qu'il y a aussi, là aussi, il y a des degrés, ce n'est pas pour tout le monde la même chose. Quelqu'un qui reçoit un ministre de Dieu, il a une grande récompense. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et après, ça va dans la hiérarchie. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'y a qu'à regarder la nature. On n'a jamais vu des choses tout d'un coup. Non, c'est toujours ordré, des cycles. Donc il y a 3 degrés de récompense parce qu'il y a 3 degrés ordonnés par Jésus dans l'Église. Il faut en être conscient. Et c'est aux 12 que Jésus dit cela pour établir l'ordre dans son Église. Alors on voit ça dans Matthieu 10, 1 et Matthieu 10, 12, 40 à 42, vous lirez tous les passages. Et il est en train de maintenant rétablir cet ordre qu'il avait établi au commencement, mais c'est de l'ordre, c'est pas du désordre. Ça peut pas se passer dans le désordre, ça doit se passer dans l'ordre. Recevoir la prêtrise, ce n'est pas un rite de passage, c'est un miracle de Jésus. On peut pas le faire soi-même, c'est un miracle de Jésus. C'est Jésus qui souffle sur toi, reçoit le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas naître de nouveau par vous-même. Vous pouvez vous convertir, mais vous ne pouvez pas naître de nouveau par vous-même. Se convertir, ça veut dire je marche dans ce sens et je me convertis. Je marche dans celui-là. Vous comprenez? Mais naître de nouveau, c'est un miracle de Dieu. Il faut que vous naissiez d'en haut. Ah, voilà, c'est autre chose. Alors, l'ordre est toujours le même. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est toujours le même. C'était le verset que j'ai lu, que je vous ai cité au début. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. On cite, nous autres, dans la Pentecôte, on cite toujours ce verset pour dire, voyez, les miracles, c'est encore pour aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les miracles qui sont pour aujourd'hui. L'ordre établi est aussi pour aujourd'hui, parce que c'est lui qui l'a établi. C'est lui qui bâtit son Église, ce n'est pas nous. L'ordre est toujours le même parce que Jésus est toujours le même. C'est parce que le Saint-Esprit que nous recevons, c'est par le Saint-Esprit que nous recevons que le converti naît de nouveau. Puis Dieu choisit ceux qu'il veut pour le ministère. Il les met à part. C'est Dieu dans son Église qui choisit ses ministres. Mes frères et sœurs, vous êtes tous prêtres. Vous êtes tous un peuple de prêtres. Vous êtes un peuple de sacrificateurs. Et la prêtrise, c'est quoi? C'est une grande fraternité. C'est la plus grande. La relation entre frères et sœurs dans la prêtrise doit être la meilleure relation au monde, excepté la relation familiale. C'est d'abord, premièrement, la relation familiale, c'est numéro un. Ensuite, c'est la fraternité entre frères et sœurs dans l'Église. En plus d'être une fraternité, les détenteurs de la prêtrise sont organisés. C'est une organisation de service. C'est une organisation de service où nous nous le donnons nous-mêmes pour aider les autres à s'améliorer, pour améliorer les situations, pour que les choses évoluent. Regardez par exemple nos amis clairs, c'est vraiment, ils sont envoyés de Dieu pour ça. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est visible, c'est palpable, on le voit, voilà. Et ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas d'eux, c'est Dieu qui a mis ça dans leur cœur. Et pour nous, ben on ne sait pas pourquoi, mais c'est parce que voilà, c'est une question d'amour, de fraternité. Ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, pour aider les autres, pour améliorer les choses. Et l'organisation de la prêtrise, c'est un collège. Alors le mot collège, moi quand j'étais plus jeune, je pensais le collège, c'est là surtout où je ne veux pas aller, parce que c'était les études supérieures, et moi j'avais peur de ça, parce que je voyais tous mes copains qui rentraient de l'école, ils avaient des devoirs jusqu'à 21h, et moi j'ai dit non, je l'ai joué, moi, non, je veux pas. J'ai fait exprès de rater mon examen d'entrée pour ne pas aller au collège. Le collège pour moi c'était négatif. Mais le collège en réalité, d'après le dictionnaire, c'est une réunion de personnes revêtues de la même dignité ou ayant les mêmes fonctions. Voilà ce que c'est qu'un collège. Et quand je dis que l'organisation de la prêtrise, c'est un collège, eh bien ça veut dire que c'est une réunion de personnes qui ont la même dignité et la même fonction. Alors, vous comprenez bien qu'avec vous, je fais partie du collège des disciples. Parce qu'avant tout, je suis un disciple. Par contre, tous les disciples ne font pas partie du collège des ministres. C'est autre chose. Est-ce que vous avez saisi la chose ? Alors, vous voyez que Jésus organise son Église et que si nous recevons Jésus, nous devons aussi recevoir sa façon d'organiser. On ne peut pas faire ça à la... Comment dire ? Je te pousse, pas comme je te pousse, quoi. Hein? Si on fait ça, on organise humainement, puis c'est plus son Église. C'est l'Église de machin, l'Église de truc, l'Église de... Et il y en a plein d'Églises comme ça. Alors, agir en collège, c'est être uni dans un même but. C'est être en communauté déjà, premièrement, par exemple. Hein, ils avaient un seul cœur, une seule âme, tout était en commun entre eux, voilà. C'est pas au collège de disciples de diriger le collège des ministres, par exemple. Vous voyez ? Ce n'est pas au collège des prêtres de diriger le collège des ministres, pas du tout. Par contre, un membre du collège des ministres, il a son mot à dire dans les deux autres collèges. Pourquoi ? Ben parce que c'est simple. Un ministre, il est avant tout un prêtre, un disciple. Donc, il fait partie de tous ces collèges. Hein, ça devient plus clair ? Ça devient plus clair. Parce qu'un ministre est avant tout un disciple et un prêtre. Ça, c'est des choses que je n'ai jamais enseignées parce que je pensais que ça allait de source. Je pensais que c'était clair. On était là avec notre cœur. On faisait des choses avec notre cœur, donc il n'y avait pas besoin de dire, voilà, c'est écrit là. Maintenant, il faut remettre les choses à plat, il faut remettre les choses bien en ordre, et puis on sait où on en est, on connaît notre place chacun. Maintenant, si un membre du collège des disciples refuse l'autorité d'un membre du collège des ministres, ça pose un problème. Le collège des ministres a le devoir et la responsabilité d'avertir, d'expliquer, d'exhorter, d'enseigner, voire d'exclure. Mais les membres d'un collège de disciples ont aussi ce devoir, mais entre eux. Un disciple doit pouvoir avertir son frère disciple, il doit pouvoir lui expliquer ce qui ne va pas, il doit pouvoir l'exhorter, il doit pouvoir l'enseigner. Mais si un disciple ne reçoit pas ça, il y a un problème dans le collège des disciples. Alors qu'est-ce que Jésus dit de faire ? Eh bien, il dit qu'il faut faire appel à d'autres. C'est une logique, c'est imparable. Il faut faire appel aux autorités supérieures, au collège entier. Puis, si la rébellion perdure, ben, il faut faire appel au collège donc des ministres qui, là, vont finalement trancher. Voilà pourquoi il est essentiel de servir dans un collège, de ne pas être là simplement juste venir mettre les pieds sous la table et puis dire bonjour ou pas. On prend part pour pouvoir se développer ici-bas. Tous les membres du collège doivent considérer leur devoir comme faisant partie d'une obligation de servir dans le royaume céleste, dans le royaume de Dieu, du Père céleste. C'est une obligation. Vous allez me dire, c'est aussi une obligation de respirer, je vous signale. Moi, je ne veux plus. C'est une obligation de manger, c'est une obligation. On est obligé de faire des tas de choses. Alors, nous savons bien que nous faisons tous face à des difficultés dans notre mise à l'épreuve ici-bas, sur cette terre. Alors, à moins d'avoir du soutien pour nous aider sur le chemin de la vie, eh bien, nous n'aurons pas de plan vraiment déterminé. On est seul, on n'est pas bien, et on n'a pas de direction précise, on n'a pas une carte routière détaillée pour nous guider. Alors, un collège qui fonctionne bien est un collège où les membres sont de bonne volonté. Voilà pourquoi je reviens toujours avec cette phrase, il faut que vos intentions soient bonnes. Le diable, il proposait des choses qui était pas mal finalement. Dieu, il me dit, attends, Dieu il sait très bien que si tu en manges, tu vas devenir comme lui. C'était pas un mensonge. C'était pas un mensonge. Mais son intention, c'était quoi? Vous voyez? Faire attention. Quand il dit, mais tu as du pouvoir, tu n'as qu'à transformer ces pierres en pain, tu les bouffes, puis c'est bon. C'était gentil. C'est vrai, il lui rappelait qu'il avait le pouvoir. Mais non, c'était son intention, c'était quoi? Vous voyez? Donc, il faut avoir une bonne intention, de bonne volonté. Un collège qui fonctionne bien, c'est un collège où les gens sont de bonne volonté. C'est pourquoi Jésus dit paix aux hommes et aux femmes aussi, et aux enfants, de bonne volonté. Et même à Potter. Potter, c'est notre chien. Je dis ça pour ceux qui sont sur Internet. Ils veulent la même chose et ils le veulent de tout leur cœur. Mes frères et sœurs, aucun homme ne dirige l'Église de Jésus-Christ. Aucun homme, même s'il prétend vouloir diriger, il ne dirige rien du tout. Aucun homme ne dirige l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église de Jésus-Christ. Alors il la dirige à sa manière, par l'intermédiaire de ministres, de prêtres et de disciples. Mais voilà, c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait. Jésus a délégué ces pouvoirs-là aux hommes de la terre, afin qu'ils puissent opérer comme ses agents, pour diriger son Église, les ordonnances et toutes ces choses-là sacrées, pour le faire en son nom. Faire quelque chose en son nom, ça veut dire le faire de sa part. Quand j'impose les mains à un malade, ce n'est pas moi qui guéris le malade, mais je le fais au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de la part du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Et c'est pour tout la même chose. Tout ce que vous faites, faites-le en mon nom, c'est-à-dire de ma part. Voilà. Soyons donc reconnaissants de ce que Dieu ait rétabli son Église déjà premièrement en tant que communauté, on en est très contents, ou collège de disciples, collège de prêtres et collège de ministres. Alors qu'est-ce que c'est un collège de disciples? La différence entre un collège de disciples et un collège de prêtres. Le disciple, il est prêtre, mais vous avez des disciples qui ne peuvent pas, parce que soit ils sont trop âgés, soit ils ont un problème de communication. Alors, mais chacun a sa place dans l'Église de Jésus-Christ. On ne va pas demander à une main de faire le travail du nombril, ni au nombril de faire le travail du pied. Donc, tous n'ont pas les mêmes possibilités, les mêmes capacités, mais c'est pourquoi vous avez des prêtres, on reconnaît tout de suite, parce qu'ils agissent, ils sont dans une action, puis les autres, ils aident. Vous comprenez? Et il n'y a pas de honte. Tout le monde est bien, tout va bien quand chacun accepte d'être ce qu'il est. Et aime faire ce qu'il fait. Mais à partir du moment où on commence à jalouser et à vouloir être le calife à la place du calife, alors là, ça ne va pas. Jésus a commencé ainsi, puis l'apostasie est arrivée, et maintenant, Jésus est en train de rétablir ce qu'il avait commencé au début, il le rétablit, et c'est ce que Jésus a fait durant... ce que Jésus a fait durant sa vie terrestre, eh bien, il est en train de le rétablir maintenant, juste avant la fin. Les bases de l'Église. Et puis, après avoir commencé cela, il a vu que les jours approchaient où il devait faire ce pour quoi il était venu, c'est-à-dire mourir pour nos péchés. Il est venu pour ces deux choses. Premièrement, établir son Église parce qu'il fallait le faire. Et puis ensuite, il fallait qu'il donne sa vie pour nos péchés. Alors il a décidé, voilà, c'est le moment, il faut que j'aille à Jérusalem. Alors il a entrepris ce voyage, ce dernier voyage à Jérusalem, il savait qu'il allait à la croix. Et dans l'évangile de Luc, on voit mieux que dans les autres évangiles, que sur la route de Jérusalem, Jésus il a encore formé les hommes et les femmes qui voyageaient avec lui. Il les a formés aux exigences de la vie de collège. Juste avant ce départ pour Jérusalem, il dit, si quelqu'un veut venir avec moi, après moi, derrière moi, à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix, vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire... Il y avait un pasteur génial, il faisait de l'évangélisation, il s'appelait Benzi, il disait, moi je porte ma croix, j'ai une belle mère. Il disait ça pour faire rigoler le public, pour détendre un petit peu l'atmosphère. Mais ce n'est pas ça, porter sa croix. C'est-à-dire porter sa croix, c'est aller au renoncement de sa propre vie. Puis, sur le chemin de Jérusalem, il explique que la vie de ceux qui le suivaient ne serait pas facile. Il leur dit, le Fils de l'homme, il n'a même pas un endroit pour poser sa tête. pour dire qu'il essaye de les décourager. Alors, vous voulez me suivre, vous trouvez que c'est bien, ben, moi je vous dis, c'est difficile. Hein. Et puis il leur explique que rien ne devait passer avant le service divin. Même pas d'aller enterrer son propre père. C'est pas qu'il est contre, c'est pas que c'est pas bien d'aller enterrer son propre père, mais Jésus voulait dire que la dévotion au Seigneur est la plus haute priorité du disciple. Ça passe avant tout. Avant tout. Puis ensuite, Jésus parle de la concentration sur ce qu'on a commencé. Et non pas, il nous dit, vous n'avez pas le droit de regarder en arrière. Vous n'avez pas le droit de... C'est là qu'il fait cette merveilleuse parabole sur l'homme qui passe la charrue. Ensuite, il explique que quand on est mal reçu, ben, faut se calmer, parce que les disciples disent, oui, t'as vu comment ils nous ont reçus, ces Samaritains, est-ce que tu veux qu'on fasse tomber la foudre? Oui, ils étaient plein de foi. Hein. Et Jésus leur explique comment. Ils avaient été mal reçus par les Samaritains, alors, juste après, il laisse un petit peu la mousse tomber, il leur dit, mais de quel esprit vous êtes animé? C'est affreux. Puis après, il leur donne cette magnifique parabole du bon samaritain. Ça, c'est pour chaud, froid, avec... Vous savez, quand on fait partie du collège de disciples, c'est souvent ça, chaud, froid, c'est déstabilisant. On aime tellement, n'est-ce pas, quand tout glisse, quand tout est toujours bien tiède. Non, chaud, froid. C'est au moins sans vivre, hein, comme ça. Donc, Jésus leur montrait que la charité que le bon samaritain avait manifestée, ben, c'était la même charité qu'il avait manifestée aux méchants samaritains qui l'avaient mal reçu et que c'était comme ça qu'ils devaient faire eux aussi. Les disciples, ils voulaient qu'ils périssent là, sur le champ, tchac, à la fin de l'été, boum. Non. Mais Jésus, il a continué à être toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, comme main. Et sur ce chemin, il a aidé, il a guéri, il a délivré encore beaucoup de personnes sur cette route qui le conduisait à la mort. Et, moi, à sa place, je n'aurais pas eu le moral, ben lui, non. Il savait où il allait. Évidemment, bon, il savait que ça allait être dur, mais quand même. Continue à s'occuper des autres. Puis, il s'arrête chez Marthe et Marie. Et là, Jésus ne va pas à la cuisine pour dire à Marthe de s'arrêter de cuisiner, pour venir l'écouter. Écoute, Marthe, écoute quand même, c'est moi que je suis Jésus, je suis chez toi, tu pourrais quand même prendre la peine de venir m'écouter, tu ne sais pas ce que tu perds. Bon, non, pas du tout. En fait, il est très satisfait de se laisser servir comme... Elle le voulait, c'est elle qui le voulait, hein, le servir. Comme la Michou s'est levée ce matin à 6 heures pour faire les tomates farcies, c'est pas mon réveil qui m'a réveillé, c'est les odeurs de tomates farcies qui m'ont réveillé ce matin. Vous allez vous régaler tout à l'heure. Mais elle l'a voulu, on n'était pas obligé. Elle pouvait très bien faire des chips jambon. Hein. Mais non, elle a voulu faire quelque chose de bien. Et même Marthe aussi, elle a voulu faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, il était satisfait jusqu'à ce que il soit obligé de la réprimander. Et il a dû la réprimander à cause de sa suffisance. Il a voulu nous parler de ça, de la suffisance. Cette suffisance, elle a entraîné la réprimande, et ce n'était pas la préparation du repas. C'était juste la suffisance de Marc. La suffisance, c'est la présomption, n'est-ce pas? Non, mais t'as vu ce que je fais, puis elle, là. Là. Et puis, quand même, c'est pas juste. Et puis le ton aussi. Vous savez, les gens qui viennent vous parler, le disciple qui vient vers un ministre, puis qui dit, maintenant, ça doit être comme ça. Non, mais attends, c'est de la suffisance. Et ça, Jésus, non, il dit au milieu de vous, c'est pas comme ça, surtout dans l'ordre établi. Vous voyez, chacun a sa place. Chacun a sa place. Rien n'est mal, ni de servir, ni de m'écouter, dit le Seigneur Jésus. Ce qui est mal, c'est ta suffisance, Marthe. Pas bon. C'est pas bon. Faut changer. Alors, je te le dis, ta sœur a choisi la meilleure place. Ta place, tu l'as choisie, c'est pas moi qui t'ai demandé. Ta place, là, à la cuisine, tu l'as choisie, et ben c'est bien. As-tu choisi ta place dans l'Église ou est-ce que Dieu a choisi ta place d'être là ou là? Bon, si tu m'avais dit, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais dit, ben viens, on va s'arrêter un moment, on mangera plus tard. Vous voyez? Jésus n'est pas opportun, il ne va pas vous obliger. Il ne va pas vous obliger. Par contre, vous, dans les collèges, les différents collèges, vous avez le devoir d'obliger, c'est-à-dire de... Vous voyez quelqu'un qui traîne, quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui... fortifiez-le, aidez-le, poussez-le, tirez-le pour qu'il... Et puis, dans ce que j'appelle la famille, dans ce que la Bible appelle la famille, et je vous ai dit, la famille, ça passe avant l'Église, eh bien, les parents, vous avez le devoir d'obliger vos enfants venir aux réunions, même s'ils ne comprennent rien, même si pour eux c'est long, parce que ce qui rentre dans leurs petites oreilles, ça reste gravé dans leur cœur. Et un jour, le Saint-Esprit va leur rappeler ces choses-là quand ils en auront besoin. Vous ne me croyez pas? Regardez l'exemple de Mélodie. C'est tout. Elle a été à toutes les réunions depuis qu'elle est née. Et bien voilà le résultat. Alors, qui choisit? Ben, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu, mais toujours dans le cadre qu'il a préalablement établi dans son Église, pour la simple et bonne raison qu'il ne change pas, il ne va pas changer pour les beaux yeux des Turcs, jamais. Voilà, il enseigne tout ça sur la route qu'il mène à la mort. Et puis alors, Marthe, elle a commis une erreur, cette erreur, c'est d'être focalisée sur elle-même, et Jésus la reprend, et puis il lui explique, il lui dit, tu sais, en fait, il ne lui dit pas tout ça, mais on comprend que quand on sert quelqu'un, eh bien, la première chose que nous devons apprendre, c'est que nous devons nous oublier nous-mêmes. On doit s'oublier soi-même. Ce que tu fais avec ta main gauche, ta main droite doit l'ignorer. On s'oublie soi-même. On cherche la volonté du Sauveur pour guider nos désirs. On cherche la volonté du Sauveur pour guider nos motivations et nos actions. On n'est pas là pour dire, t'as vu ce que j'ai fait, ça t'impressionne, hein? Ou dans son Église, qu'il commençait à rétablir, Dieu était en train de leur apprendre que dans le collège de disciples, le collège de prêtres, le collège de ministres, nous devons surmonter la tendance à penser d'abord à nous-mêmes. Moi, j'ai bien aimé le petit film qu'on a regardé hier, où on voit cet homme qui a des capacités phénoménales, intellectuelles, c'est un homme intelligent, c'est un homme pratique, c'est un homme qui est toujours en train de penser au plus humble, au plus simple. Au plus... Puis c'est pas un film de propagande, c'est un homme qui est comme ça. Et puis c'est reconnu, puis c'est comme ça. Nous devons surmonter cette tendance à penser d'abord à nous-mêmes et à servir notre Père Céleste et ses enfants, les yeux fixés uniquement sur sa gloire à lui. Et puis Jésus parle de l'avarice. Il parle de l'avarice parce que c'est quand même un gros problème. À un homme qui avait un problème d'héritage, et puis il qualifie l'homme riche de la parabole d'insensé. Est-ce que vous avez remarqué que l'homme riche de cette parabole, Il emploie 11 fois les termes « je »,« ma »,« mon je »,« ma mon »,« mon maman, mon je ». C'est un égoïste. Et en plus, il ne reconnaissait pas la source de toutes ses richesses. Il ne reconnaissait pas que ça venait de Dieu. Jésus ne veut pas de disciples comme ça dans aucun de ses trois collèges. Il n'en veut pas. Ni dans le collège des disciples, ni dans le collège des prêtres, ni dans le collège des ministres. Il n'en veut pas. Il va supporter un moment, il va laisser faire un moment, et s'il n'y a pas de repentance, là. Jésus, il n'est pas en train d'amasser, il va vers la mort. Il nous dit, vous devez faire la même chose. Il établit, il allait bientôt descendre en dessous de tout, et son corps serait couvert de sang, de sueur, il allait souffrir pour nos péchés, ce n'était pas un jeu. Il n'était pas en train de monter une secte. C'était le but, le grand but de sa vie. Et puis, quand en chemin vers Jérusalem, il y a des pharisiens qui arrivent et puis qui lui disent qu'Hérode le cherche pour le faire mourir, eh bien, il affirme, moi, de toute façon, jusqu'au bout, je continuerai en toute occasion d'instruire, de bénir, de guérir les autres. C'est mon truc, comme disent les gens. C'est ça, c'est pour ça que je suis là. C'est un exemple. Puis, tout près de Jérusalem, il demande à ses disciples d'évaluer ce qu'il en coûte d'être disciple. Après leur avoir parlé de tout ça, après leur avoir montré tout ça. Écoutez un peu ce qu'il dit, c'est dans Luc 14, 25. De grandes foules faisaient route avec lui. Jésus se tourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Boum. Ça refroidit, hein, chaud, froid. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut ? S'il peut. S'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il va lui envoyer une ambassade pour demander la paix. Il faut être intelligent aussi. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a les oreilles entende, chaud, froid, miracle, merveille, beauté, émotion, pleurs, embrassade, et puis après, là ! Parce que ce n'est pas une petite affaire. C'est la question de notre éternité. Et notre éternité, elle commence dans l'Église de Jésus-Christ. Et dans l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe quoi. C'est son Église, c'est lui qui l'a bâtie. Alors, il leur dit ça, puis après il leur fait une promesse. Que si nous perdons tout, si nous perdons même nous-mêmes sur le chemin de disciples, eh bien, nous gagnerons infiniment au retour. Et quand il dit infiniment, c'est vraiment infiniment. Alors, méditez ces choses, mes frères et sœurs. Montrez votre volonté de reproduire ce voyage de Jérusalem jusqu'à Jérusalem dans votre propre vie. Parce que c'est ça, c'est notre vie, c'est le voyage vers Jérusalem avec la croix. Si ce n'est pas ça, c'est dangereux. Mes frères et sœurs, le fait de nous rappeler que le Seigneur était réellement disposé à se sacrifier, à servir, conformément à la volonté du Père et non pas selon sa propre volonté, ça peut nous donner la force de faire la même chose. Dans Luc 10, 37, il est dit, va et toi, fais de même. Et dans un autre passage, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Jean 10, il dit, et tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Pas seulement les miracles, mais tout ça. Ça, c'est un programme. Et comme disait l'autre, je ne sais plus lequel, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, décidez-vous aussi, voilà, je veux servir l'Éternel. Pas forcément en tant que ministre, mais priez le maître pour qu'il envoie des ministres dans la moisson. Il en manque, il n'y a pas beaucoup. Vous avez vu, sur la foule, il n'y en avait que 12 au départ. Après, parmi les 12, il y a encore choisi 3 autres. Vous voyez, c'est une grande responsabilité de donner sa vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement avoir une émotion dans une réunion, lever la main, aller poser son derrière dans l'église le dimanche matin. Mais c'est la vie. C'est une vie. Et la vie autrement, moi, je n'aime pas. Je ne pourrais pas, je ne voudrais pas. Ça ne me plairait pas. Je sais que je sais gagner de l'argent, je pourrais en gagner. Puis après, et alors ? C'est vrai que ça. Je disais l'autre jour, dans quelqu'un qui avait mis une petite vanne sur Internet, il disait, des scientifiques, après 5 années d'études, ont réalisé que être beau, jeune et riche, ça aide beaucoup. Alors oui, ils ont fait une sacrée trouvaille. Mais voilà, je vous assure, c'est pas ça. Nous sommes plus que ça. Nous méritons mieux que ça. Et nous sommes appelés à mieux que ça. Cette vie éternelle. Là, c'est juste un passage. Ce matin, je me regardais dans la glace, je dis, mon Dieu, quelle horreur. C'est pas possible de devenir comme ça. Mais oui, ben voilà. Ben, dans un autre sens, je me dis, merci Seigneur, c'est bientôt fini. J'ai fait le plus gros. Bientôt, c'est un corps éternel, merveilleux, glorieux, avec le Seigneur. Et puis, on voyage à la vitesse de la lumière. Et puis, on crée les mondes, on dirige tout ça. Ça va être formidable. Et moi, je me réjouis de tout ça. Ça me donne le moral pour continuer. Pas vous ? De penser à la vie éternelle, de penser comment ça va être avec Jésus, de penser qu'on va les revoir, de penser que, comme dit le petit cœur, le pèlerin, je vais revoir ma mère, je vais revoir mon père, je vais revoir Camilla, je vais revoir Raphaël, je vais revoir Violette, je vais revoir Osborne, je vais revoir Daisy, je vais revoir tous ces gens qui sont déjà partis. Et puis, on va revoir Branham, on va revoir tous ces gens. C'est magnifique parce que ça va être sans aucun problème. Ici, il y a que des... Oh mon Dieu. Un jour, Michel, il y a des jours, il y a un ras-le-bol. Mais c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Et chaque jour qui passe... Moi, mon père n'était pas chrétien, mais chaque dimanche soir, ma mère m'a dit que chaque dimanche soir, quand il se couchait, il poussait un grand soupir. Il disait, ah, un de plus, un de moins. L'air de dire, bon, c'est bientôt fini. Ben, il n'en a pas eu beaucoup, il est parti à l'âge de 49 ans. Puis moi, je pensais mourir jeune. Hein? J'avais vu que James Dean avait dit, il faut mourir jeune pour être un beau cadavre. J'ai dit, ouais, moi aussi, je ne veux pas être un vieux. Puis ça y est, je suis un vieux. Je suis un vieux, Titi. Il dit oui. La vérité sort de la bouche des enfants. Ben oui, je suis un vieux. Ben tant mieux, je suis bien content. Et j'espère que Jésus revient bientôt. Est-ce que vous espérez que Jésus revient bientôt? Alors tenez-vous ferme, il n'y en a pas pour longtemps. Tenez-vous ferme. Si vous êtes un disciple dans le collège des disciples, soyez ferme. Soyez quelqu'un de bien, quelqu'un sur qui on peut compter. Si vous êtes dans le collège des prêtres, soyez conscient de tout ce que vous avez à faire et que vous pouvez faire. Eh bien, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes ministre, eh bien, soyez sérieux. Ne soyez pas n'importe quoi, faisant... Voilà. Soyez sérieux dans tout ce que vous avez à faire. Et puis, il y a aussi des grands moments où on se réjouit. Il n'y a pas que le chaud, il y a le froid, il y a le froid, il y a le chaud, il y a tout. Il y a tout avec Jésus. Avec Jésus, la vie est belle, n'est-ce pas? Tiens, mettez-vous à la musique et on va chanter « Avec Jésus, la vie est belle ». C'est une vérité. Il y a des difficultés, mais avec Jésus, la vie est belle. C'est vrai. Éternel, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, on ne manquera pas de problème, ni de solution. Amen. On manque de rien. Avec Jésus, la vie est belle. Avec Jésus, la vie est belle, la vie est pleine de bonheur pour ceux qui vivent chaque jour. Avec Jésus à leur côté, avec Jésus, la vie est belle, la vie est pleine de bonheur pour ceux qui vivent chaque jour. Avec Jésus à leur côté.